do we want?
Bonjour à tous et à toutes, on est aujourd'hui réunis pour un nouvel épisode de La Popeline. On sera ensemble pour 3 épisodes de la série Cuirez-vous qui aborderont des thèmes LGBT. Moi c'est Chloé, j'ai 27 ans, je suis asexuelle et panromantique.
Moi je m'appelle Sarah, je suis non-binaire, homosexuelle et fucking queer.
Moi c'est Amélie, j'ai 24 ans et je suis bisexuelle.
On a décidé de se regrouper entre nous dans un cadre safe pour discuter de tous ces sujets. Attention, ça ne veut pas dire qu'au quotidien, tous vos amis queer vous doivent un exercice de pédagogie gratuite constamment. Ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont nos propres vécus, nos propres expériences et nos propres ressentis. Ça ne veut absolument pas dire que cela s'applique à toutes les personnes asexuelles, bisexuelles ou non-binaires.
Bien sûr, une liste de sources bibliographiques vous sera proposée pour chaque épisode, pour vous documenter et pour devenir des meilleurs alliés.
Épisode 2, la non-binarité.
Donc Sarah, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est pour toi être non-binaire et nous parler un petit peu de ton expérience perso ?
La première chose à comprendre sur la non-binarité, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas forcément d'un troisième genre ou d'un genre X comme c'est présenté souvent dans les médias. La non-binarité, c'est un terme parapluie qui signifie qu'on sort d'un pôle binaire. Ça veut dire qu'on n'est ni exclusivement une femme, ni exclusivement un homme. Et donc, c'est tout un terme parapluie qui regroupe et qui abrite toute une série d'identités de genre. Ce parapluie regroupe notamment donc les genderqueer, les agenres, les bigenres, les genderfluides. Donc par exemple, les genderfluides, ce sont des personnes qui se situent dans un pôle entre hommes et femmes et qui oscillent entre ces deux pôles dans un certain durée de temps. Et donc ça peut varier du jour au lendemain, d'un mois à l'autre, ou d'un temps pas forcément qui est défini. Au final, donc, il y a une multitude de personnes qui sont situées en dehors de cette binarité et qui sont tout aussi diverses que comment on peut être une femme ou comment on peut être un homme. Donc il y a une multitude de façons d'être non-binaire.
Mais donc, est-ce que être non-binaire, c'est forcément être trans et est-ce qu'il y a une différence entre les deux ?
C'est une très bonne question, Amélie. Et en fait, pour y répondre, il faut comprendre que la transidentité, c'est le fait de ne pas se sentir intimement dans le genre qui a été assigné à la naissance. Et donc, lorsqu'on est non-binaire, étant donné qu'aucun enfant n'est assigné non-binaire à la naissance, par définition, les personnes non-binaires sont trans.
Et donc, je pense qu'il y a peut-être une confusion entre ce que c'est l'identité de genre d'une personne et l'expression de genre de quelqu'un. Et donc, souvent, on va penser qu'une personne non-binaire est forcément androgyne et ressemble forcément ni à un homme ni à une femme. Enfin, ça. Beaucoup de gens mélangent ces termes-là. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ?
Ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que l'expression de genre se réfère à comment on se présente. Comment on se présente à l'extérieur ou comment on peut être identifié à l'extérieur. Donc ça peut se transmettre par les attitudes, le comportement, la tenue vestimentaire notamment. Et donc il peut effectivement arriver que certaines personnes ont une identité de genre féminin, mais qui ont une expression de genre masculine. Et inversement. Et donc pour les non-binaires, il n'y a pas de règle non plus, donc les non-binaires peuvent avoir une variété d'expressions de genre. Et donc les non-binaires n'ont pas forcément une expression de genre qui serait androgyne, où on ne pourrait pas identifier la personne selon les codes binaires de la société. Donc il n'y a pas possibilité de dire « Ah, toi tu me sembles non-binaire en fait », parce que l'expression de genre n'est pas du tout liée à l'identité de genre.
C'est super intéressant ce que tu dis, ça me fait penser un peu, c'est important de souligner cette différence, parce qu'il y a par exemple des lesbiennes butch qui vont dire « moi je suis une femme en fait, tu vois, c'est mon expression de genre, elle peut vous apparaître quelque part masculine, mais ça change rien à mon identité de genre, qui est d'être une femme », donc je trouve ça vraiment important de bien expliquer la différence entre les deux, et qu'il n'y a pas forcément, malgré que voilà, la société veut qu'on aligne à chaque fois les choses, que l'identité de genre aille avec l'expression et aille avec l'orientation, mais c'est vraiment des choses tout à fait différentes et qui n'ont pas besoin de s'aligner.
Ce que tu dis, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue une fois où il y avait à la fois des lesbiennes avec une expression plutôt masculine et des personnes transmasculines. Et du coup, ben, ça m'avait vraiment marqué cette fois-là parce que je me suis vraiment rendu compte que peu importe le physique de la personne, tu ne peux pas le savoir quel est son genre avant d'en avoir parlé avec, et c'est quelque chose qui est tellement ancré dans notre société que c'est difficile de s'en défaire et de changer de représentation par rapport à ça.
Et donc, dans la même logique, c'est important de souligner le fait que, en fait, la tenue vestimentaire, donc les vêtements n'ont pas de genre. Donc, il n'y a pas une manière de s'habiller qui soit féminine, masculine, au final. Et que, dans la même logique, combien même on aurait des barbes, des seins, des vulves, des pénis, ce serait en fait tout simplement des barbes, des pénis, des clitos, de non-binaire, il n'y a pas de... Ah, mais en fait, t'es non-binaire, mais t'as un pénis. Oui, j'ai un pénis et j'ai un pénis de non-binaire. Et puis, je pense que ça ne vous regarde pas au final ce que j'ai entre les jambes non plus. Donc, faut arrêter avec ces questions qui sont très traumatisantes, parfois qu'on pose de manière indiscrète aux personnes trans. Parce qu'au final, ça les ramène à les identifier comme uniquement par leur partie génitale. Et ça va en contresens avec cette idée de féministe qui est de dire, en fait, on ne définit plus. Les personnes en fonction de leurs organes génitaux. Une femme n'est pas égale à un utérus, encore moins à un vagin. Donc voilà.
Ouais, et ça me fait penser, c'est vraiment un truc qui m'énerve dans la rhétorique transphobe en général et des TERF particulièrement. Donc les TERF, c'est des personnes qui se revendiquent féministes, mais en étant transphobes et en vraiment en revendiquant que le fait que les femmes, pour être une femme, il faut avoir des organes génitaux. Et vraiment, ça, je trouve ça déjà illogique parce qu'on s'est battu pendant des années pour dire en fait les femmes ne sont pas leurs organes reproducteurs, ne sont pas des usines à bébés. Et en même temps, ça m'énerve parce que en fait, si moi je me balade dans la rue, les gens me lisent comme étant une femme. Ils savent pas ce que j'ai dans ma culotte. Ça n'a pas d'importance en fait. C'est vraiment pas ça qui détermine déjà parce que les gens n'en savent rien. Et puis c'est surtout sur ce sur quoi il faut se battre, c'est qu'on a donné des significations à certaines composantes physiques. On a dit voilà, le fait d'avoir un vagin, on a décidé socialement, culturellement que c'était un signe de faiblesse par rapport au fait d'avoir un autre type de génitoire, mais ça, c'est pas coulé dans le marbre. Et donc dire en fait ce qui fait qu'on est opprimé quand on est une femme, c'est parce qu'on a un vagin, c'est un contresens total. Et donc je pense que c'est vraiment super important de dire qu'il y a des données avec lesquelles on est physique, mais que le sens qu'on leur donne, ça s'est complètement construit et qu'il faut les déconstruire.
Mais comme tu disais, autant les vagins ont été érigés comme des organes inférieurs et des signes de faiblesse comme partie génitale, autant on a vraiment diabolisé le pénis, même si on peut avoir nos raisons vu le nombre de violences commises par les hommes en général. Autant ça a été exagéré, et notamment dans les représentations médiatiques qu'on a reçues, où on a beaucoup utilisé le narratif en fait de l'homme qui se déguise en femme et qui est un tueur en série ou quelqu'un de pervers en fait, qui va profiter de la situation. Et donc ça a vraiment énormément nui à l'image des femmes trans qu'on avait, parce que très souvent on n'avait aucune représentation de femmes trans, et donc pour nous c'était ça, les hommes qui se déguisent en femmes et qui peuvent être dangereux, quoi.
C'est super intéressant et super important ce que tu dis et ça me rappelle le fait que en fait c'est important de répéter que le corps des trans n'est pas et enfin l'identité des trans même n'est pas à psychologiser ni à psychiatriser en fait et que nos identités ne sont ni dans psychologique ni dans nos têtes. En fait, c'est une réalité matérielle, c'est une réalité qu'on vit intimement au quotidien et on est comme ça et on ne naît pas dans le mauvais corps en fait, c'est vraiment une question qui est propre et enfin innée intrinsèquement liée à comment on ressent notre identité de genre.
Ouais, et bien un peu sur l'idée qu'on a construit certaines réalités. Et je pense que, notamment le fait, ce que tu disais Amélie, que on associe le fait d'avoir un pénis par exemple avec le fait d'être violent, dominant et tout ça. Et je pense que quelque part c'est pour excuser certaines choses. Et je pense que c'est tout à fait accidentel dans l'histoire de l'humanité. C'est la sociabilisation qui peut rendre les cis mecs dominants, etc. Et je sais pas si le rapport est direct, mais ça me fait penser qu'il y a certaines personnes qui pensent que certains cis mecs vont dire ok, mais en fait non, moi je suis non binaire, et comme ça leur évite de remettre en question leur comportement oppressif et d'échapper à la classification, quoi, en disant non, mais je peux pas être oppressif parce que finalement moi je me déclare non binaire. Et encore une fois, moi je pense que c'est simplement détourner des mots qui ont du sens pour les instrumentaliser et que ça arrive tout le temps. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses, Sarah?
Je suis tout à fait d'accord avec toi et en fait c'est un point que je voulais justement souligner, c'est en fait où est la place des personnes non binaires dans la lutte féministe? Parce qu'au final on se retrouve parfois entre Bah, le cul entre deux chaises, entre les TERF d'un côté, les espaces de non-mixité de l'autre, et on se demande un peu où est ma place. Et en fait, ce qui est important de souligner, c'est que autant on peut être AMAB, donc assigned male at birth, donc autant on peut, ça signifie que lorsqu'on est non-binaire et qu'on fait un coming out en tant que non-binaire, c'est qu'on a déjà fait un processus interne de construction de son propre, de sa propre identité. Et donc ça nécessite déjà toute une série de déconstruction qui est déjà en fait très personnelle, avant même d'essayer de déconstruire les normes de la société dans une logique de lutte féministe.
Je pense vraiment qu'à force de réfléchir aux questions de transphobie, on repère certains red flags comme ça. En fait, dès que quelqu'un te sort ça, une personne, soit une femme trans, soit une personne non binaire, mais qui était assignée mâle à la naissance, bah, c'est tout de suite alerte transphobie, quoi. Tu dois même pas douter du truc, quoi, tu vois. Et aussi, ce qui est terrible avec les personnes non binaires, c'est qu'on n'arrête pas de les ramener aussi à leur genre assigné à la naissance. On n'arrête pas de mettre le focus là-dessus, et c'est vraiment gênant, parce que c'est justement le principe de ne plus ramener les gens à ça. Puis si son but c'est de venir troller un groupe ou de venir déranger un groupe en non mixité, on va très vite s'en apercevoir. Donc voilà, quoi.
C'est vrai que moi, justement, personnellement, je vis constamment cette réassignation continuelle en tant qu'homme, surtout que en fait, j'ai un cis-passing dans le sens où mon expression de genre est très masculin et j'ai été assigné en tant que masculin à la naissance. Et en fait, il faut aussi parfois resituer ce choix d'expression de genre, entre guillemets. Mais il faut comprendre qu'en fait, bah, c'est parce que tout simplement, j'ai pas ce privilège de pouvoir exprimer mon genre comme je le souhaite, étant donné que exprimer mon genre comme je le souhaiterais signifierait à être exposé à de la transphobie, en fait. Et de la NB-phobie. Et ça me fait penser au documentaire Disclosure où on expliquait qu'en fait, les hommes et les femmes trans-binaires, en fait, eux vont justement accentuer les stéréotypes du genre pour pouvoir éviter la transphobie, pour pouvoir en fait juste être reconnus dans leur genre. Et à l'inverse, peut-être qu'il arrive que les non-binaires, en fait, vont juste se conforter dans leur genre, dans l'expression du genre qui a été assignée à la naissance, pour éviter d'être confronté à une certaine violence transphobe.
Ouais, et puis de toute façon, tout ça me fait bien rire, parce que avoir un passing non binaire, c'est juste impossible. Genre, tu peux pas avoir des demi-seins, un
Oui, dans une
demi-pénis,
société
enfin,
binaire, c'est
en tout cas,
possible.
c'est compliqué, tu vois, d'avoir des cheveux mi-longs, enfin, c'est vraiment. En fait, on a des attentes impossibles sur les personnes non binaires, franchement, faut arrêter, quoi.
Tu m'as fait rire avec les demi-seins. Comment tu fais pour être au milieu? On ne sait pas. Mais oui, non, mais c'est clair. Et puis c'est quand même un peu le comble que, comme tu dis, les gens ont l'expression de genre qu'ils ou elles ont pour se protéger. Et après, on va leur reprocher. Genre, non, mais t'es pas assez non-binaire, tu vois. Genre, non, mais ça n'a pas de sens. Enfin, et ouais, c'est super intéressant ce que tu dis sur le fait d'être transgenre binaire ou non-binaire. Et je pense que ça provoque encore de la confusion chez les gens cisgenres. Parce que autant je pense que les personnes transgenres binaires subissent encore énormément, énormément de discrimination et de transphobie, mais quelque part, les gens cisgenres peut-être doucement commencent à comprendre, mais parce que ça rentre toujours dans la catégorie la binarisation qu'on a tellement l'habitude de faire dans toutes les sphères de la vie. Et être trans non binaire, je pense que ça confuse encore énormément et moi, je pense que c'est vraiment là l'enjeu fondamental, c'est d'un peu d'exploser toutes ces catégories, accepter que les gens se considèrent comme des femmes dans le sens binaire, mais aussi accepter qu'il y en a d'autres.
Ouais, puis j'ai l'impression que parmi les personnes trans, il y en a aussi qui se considèrent, par exemple, comme une femme trans non binaire ou comme un mec trans non binaire, et qui donc font un peu des compromis entre tout ça et sont, par exemple, sont non binaires, mais vont se ressentent plus quand même proches d'un genre, enfin, voilà, et qui vont plus s'exprimer dans le monde comme un mec trans ou comme une meuf trans, parce que c'est peut-être plus simple aussi à expliquer dans l'entourage, quoi, par exemple, comme disait Sarah.
Donc on en revient justement à l'idée qu'en fait l'identité de genre est binaire et c'est un spectre et qu'en fait il y a des personnes qui vont justement osciller dans ce spectre, il y a des personnes qui vont justement se situer dessus et pouvoir se rattacher à un des deux pôles binaires, masculin et féminin, et se dire justement, bah, je suis une femme non binaire, je suis un homme non binaire. Et en fait, il y a des personnes aussi qui justement vont dire, moi, je veux juste être en dehors de ce spectre, et vont se considérer comme agenre, donc une soustraction de genre, je n'ai aucun genre. Et donc, ça peut-être va permettre de clarifier aussi la pluralité des identités non binaires.
Ouais, et Sarah, en fait, ça me fait penser à ce que tu viens de dire sur le fait que toi, t'as pas le privilège, comme t'es non-binaire, de pouvoir t'exprimer au niveau du genre comme tu veux. Et je pense qu'il y a peut-être aussi, si t'as envie d'en parler, le fait que quand on est non-binaire ou trans en général et racisé, t'as aussi une couche supplémentaire, peut-être de, bah du coup de, du contraire de privilège, quoi, de discrimination, qui fait que c'est encore plus compliqué. Peut-être, ou je sais pas, d'exprimer le genre comme on voudrait, quoi.
En fait, pour ma part, je suis homosexuel, je suis racisé, je suis non-binaire. Et donc, en fait, c'est une pluralité d'identités qui doivent coexister, qui doivent s'articuler. Et en fait, cette traversée d'identités multiples, bah, ça implique que j'ai dû justement déconstruire encore plus quelle était l'identité qui a été assignée à ma naissance. Donc, j'ai dû à la fois déconstruire les normes d'identité de masculin occidental, mais aussi ce qu'on appellerait des normes d'identité orientaux, parce que en fait, effectivement, il n'y a pas une manière d'être un homme qui enfin, le fait d'être un homme en Europe en tant que blanc est différent d'être un homme racisé, parce qu'on assigne une certaine parfois une certaine violence, une certaine brutalité à des hommes orientaux, qui est justement cette idée raciste. Et du coup, c'est vraiment ce côté, ce double exercice de déconstruction que j'ai dû faire pour pouvoir me situer et me dire, en fait, je suis non-binaire et comment je fais avec ça et comment je travaille avec les privilèges que j'ai aussi d'une certaine manière de me dire, en fait, j'ai grandi dans une société où, jusqu'à mon coming out, on m'a permis de couper la parole à certaines personnes, aux minorités de genre et aux femmes, on m'a permis de faire en sorte que les personnes se sentent mal à l'aise lorsque je les croise dans la rue, etc. Et du coup, parfois, ça a créé aussi des espèces de trous intersectionnels où on ne peut plus vraiment s'identifier. Par exemple, lorsque je marche dans la rue derrière une femme et que en fait, cette femme est mal à l'aise, et en fait, ce qu'elle est mal à l'aise parce que je suis une personne racisée identifiée comme un homme, à juste titre, parce que il y a vraiment un vécu et des agressions sexuelles qui ont lieu dans l'espace public. Mais à la fois, il y a vraiment un enjeu racial derrière de dire, est-ce que si j'avais été un mec blanc cisgenre, est-ce qu'il y aurait eu le même vécu? Et donc, ça crée parfois des flous, et surtout qu'au final, je suis non-binaire et donc j'ai même pas de lien intimement envers cette catégorie d'homme cis.
Et donc, Sarah, toi, tu dis que t'es homosexuel, et du coup, ce que ça peut me faire penser comme question, c'est, mais du coup, si t'es non-binaire, quel sens tu mets derrière ça? Parce que qu'est-ce qui fait que tu te considères comme homosexuel et pas comme hétéro, pas comme pan, si on se dit que homosexuel, c'est d'être un genre et d'être attiré par le même genre que le sien?
Effectivement, c'est une très bonne question parce que si on considère que l'homosexualité c'est l'attirance par le même sexe, par le même genre, pardon, il y a quelque chose qui au niveau conceptuel et même au niveau de la définition ne correspond pas à ce que je ressens. Mais en fait, il y a des termes qui existent. Il faut comprendre que aussi tous ces termes, c'est des sortes d'étiquettes qu'on choisit volontairement de se les donner. Il y a personne qui nous les impose. Et donc moi personnellement, j'ai choisi de me identifier comme homosexuel parce que c'est le tout premier coming out que j'ai dû faire dans les séries de coming out que j'ai dû faire. Donc lorsque j'ai grandi dans mon adolescence, j'ai d'abord compris que j'étais homosexuel avant de comprendre que j'étais non binaire. Et donc mais par contre, si d'un point de vue purement définitionnel, on me qualifierait plutôt de androsexuel. Ça veut dire que je suis attiré par une expression de genre ou une identité de genre qui se dirait plus masculine.
Et est-ce que tu penses que les personnes non binaires ont une vraie place entre guillemets dans la communauté LGBT? Bon, techniquement c'est le T, quoi, on est bien d'accord, mais est-ce que toi tu t'as l'impression qu'il y a encore beaucoup d'ambiphobie ou pas?
Oui, effectivement, en fait, les personnes non binaires vivent aussi de l'ambiphobie au sein même de la communauté queer, parce que, comme on l'avait dit dans le premier épisode, encore une fois, l'espace queer est monopolisé par les hommes homosexuels blancs généralement qui font que soit t'es gay au sens masculin, soit t'appartiens pas à la communauté en fait tout simplement comme la bisexualité, comme le panromantisme et d'autres identités qui peuvent se retrouver dans la lutte queer. J'ai utilisé plusieurs fois le terme ambiphobie. En fait, ambi, ça signifie non-binaire en anglais, parce que ça vient des initiales de N et B, donc N et B, qui a été repris à l'écrit ENBY, donc NB. Et donc on parle d'ambiphobie pour parler de la discrimination envers les personnes non-binaires.
Alors, il y a pas mal de gens qui pensent que les non-binaires veulent abolir le genre. Qu'est-ce que tu penses de ça?
C'est inopportun de penser que les personnes non binaires cherchent à abolir le genre parce que c'est vraiment pas là que se situe le combat. La lutte, elle est plutôt dans le sens où c'est pas tant l'existence du genre masculin et du genre féminin qui pose problème, mais plutôt cette binarité imposée dès la naissance. Dès la naissance, on considère que tu es né soit homme, soit femme parce que tu as des attributs qui correspondent à être un homme ou à être une femme. Et donc qui crée aussi par ailleurs de l'interphobie, c'est-à-dire de la discrimination envers les personnes intersexes, parce que justement ça pose dans une conception binaire du monde un problème entre guillemets de savoir mais en fait si tu n'as pas tous les attributs qu'il faut pour être un homme ou celle d'une femme, ben en fait tu ne peux potentiellement pas exister. Et en Belgique, c'est très clair puisque l'identité X n'existe pas. Donc, on est soit homme, soit femme. On ne sort pas encore juridiquement de cette binarité.
Mais en plus, j'ai l'impression que c'est souvent un argument facile pour couper court à la réflexion sur ce sujet. Parce qu'il y a énormément de gens, quand tu vas leur parler de non-binarité, etc., ils vont répondre: Ah, mais tu sais, moi aussi, je suis contre les rôles de genre et les discriminations. Alors, en fait, c'est juste un truc super évident, mais du coup, les gens, ils vont croire que c'est la même chose et que pour eux, juste être un peu vaguement féministe, c'est la même chose qu'avoir un genre non-binaire, quoi. Parfois, il y a vraiment un manque de compréhension entre vraiment le sens des termes et aussi une délégitimisation du fait d'être non-binaire par rapport à ça.
Et justement, pour encore une fois clarifier, du coup, lorsqu'on est féministe et qu'on est contre les rôles du genre, il est évident que ça ne remet pas pour autant la question d'être une femme. Et de la même manière, être non-binaire, c'est vraiment quelque chose qui est intimement lié sur comment on se perçoit soi-même. Donc c'est pas forcément une question de normes genrées au final, même si très peu de non-binaires sont à l'aise avec ça. Mais il peut y avoir des personnes non-binaires qui se conforment à un certain rôle de genre. Donc ça n'est pas forcément lié. Donc on peut très bien être non-binaire et avoir un rôle féminin, genré, mais cela ne veut pas dire qu'être féministe, c'est être non-binaire non plus.
Au final, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux parties du corps et aux parties génitales. Le but, c'est vraiment de mener une réflexion pour arriver à percevoir tout ça en dehors du genre et en dehors des rôles de genre. Et donc, ça veut dire qu'on peut très bien être non-binaire et on n'est pas forcé d'adopter un mode de vie différent. En fait, on peut continuer à vivre notre train de vie, mais c'est juste qu'on ne perçoit plus ça comme quelque chose lié à un genre défini et binaire, quoi.
Et Sarah, sinon, en dehors de l'ambiphobie qu'il peut y avoir de manière interpersonnelle ou quoi, qu'est-ce qui, dans ta vie de tous les jours, vraiment t'apparaît comme des discriminations envers ta non-binarité? Qu'est-ce que tu aurais comme demande au niveau, par exemple, des systèmes administratifs, etc.?
Ça va sembler très con, mais un des trucs dont mon quotidien revient souvent, c'est les WC. C'est mais où je vais lorsque je vais aller aux toilettes?
Je vais faire pipi, je vais où?
parce que autant, par exemple, lorsque je vais dans des sanitaires pour femmes, bah autant je représente comme un objet d'oppression parce que j'ai une expression de genre masculine. Mais de la même manière, lorsque je vais dans les toilettes des hommes, il y a cette question de déjà je ne suis pas un homme de base, et de deux j'ai l'impression de ne pas appartenir à cet espace de virilité entre guillemets où se jouent certaines choses quand même avec les urinoirs, le regard, etc., où je me sens vraiment pas à l'aise parce que et aussi où dans lequel je peux me sentir aussi comme un endroit passé, parce que en fait l'homophobie existe encore, et donc lorsqu'on est non-binaire, on est parfois assimilé à des personnes homosexuelles, parce que en fait les queerphobes ne font pas la différence de beaucoup de choses au final. Et donc on peut être potentiellement victime dans des toilettes, mais donc et au final je m'étais déjà posé la question mais pourquoi en fait on a réussi à imposer dans l'espace public quelque chose qu'on n'a pas chez nous? Pourquoi dans nos domiciles on n'a pas de toilettes genrées? Alors pourquoi? Comment ça se fait qu'on en a dans l'espace public? Et pourquoi on n'a pas tout simplement des sanitaires privés, enfin, des sanitaires mixtes avec des sanitaires où c'est plus safe, avec un lavabo et des toilettes séparées, pour les personnes qui se sentiraient moins à l'aise de partager leur sanitaire?
Bah oui, bah clairement, bah là dans le bâtiment où on est, en fait, il y a des toilettes où c'est séparé, quoi. Tu rentres, il y a la toilette en elle-même, puis un lavabo, et c'est mixte. Et genre, je comprends pas pourquoi c'est pas juste partout pareil. Et je comprends vraiment pas, mais vraiment ça me dépasse, pourquoi les mecs, si genre, ça impose des urinoirs. Enfin, c'est quand même un lieu atroce, genre de... Ça doit être hyper malaisant. Si t'es pas dans l'hyper masculinité hégémonique et super à l'aise avec ça, c'est juste hyper violent. Pourquoi ils font ça? Je comprends pas. Voilà.
Et de la même manière, je pense que c'est aussi un combat pour les personnes trans, binaires aussi, de savoir, bah, en fait, avoir des poubelles pour pouvoir déposer les déchets périodiques, je
Ouais.
pense, dans les toilettes, pour hommes, et inversement, pourquoi on n'a pas d'urinoir, dans les toilettes pour femmes? C'est un peu des questions qui se posent aussi, et je pense que la seule réponse, légitime, c'est d'avoir des espaces, mixtes.
Et Sarah, je reviens un petit peu en arrière. Tout à l'heure, tu disais que dans l'état civil, il n'y a pas de catégorie X pour les gens qui ne veulent pas être F ou H. Et j'ai déjà entendu des personnes verbaliser la crainte qu'on considère du coup qu'il y ait les normaux, les normés, les hommes et les femmes, et puis la catégorie X pour les gens un peu bizarres, tu vois, et que ça cause des discriminations en plus, parce que genre tu donnes ta carte d'identité à un agent de l'État et qui voit que c'est marqué X et que ça, du coup, tu sois discriminé à cause de ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Et effectivement, en Belgique, pour l'instant, il n'y a que F et M qui existent, et donc le genre X n'existe pas encore, même s'il est en projet en ce moment, et qui dans les il va incessamment sous peu arriver. Mais ce X même est même remis en question, parce qu'en fait, au final, il y a plusieurs choses qui en découlent. Déjà, affirmer son identité genre au niveau administratif, c'est potentiellement s'exposer ouvertement à des risques de transphobie. Et parce que ça veut dire que typiquement on peut se retrouver dans un guichet d'une administration communale et avec une personne qui va avoir le X sur ta carte d'identité et se dire bon en fait bah je te sers pas quoi, je vais être discriminant envers toi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile de se dire au niveau étatique on va assumer qu'il y a un troisième genre qui regroupe une multitude d'identités qui sont parfois les uns rien à voir avec les autres, parce que ça regroupe les personnes intersexes, mais en même temps les personnes non binaires, etc. Et c'est vrai que ça fait un peu une case un peu fourre-tout au final. Et au final, ça revient à la question de mais pourquoi en fait on a besoin que le genre soit dans nos cartes d'identité en fait? Parce que enfin, il y a une époque on avait nos adresses, on avait nos religions, mais le genre reste encore, sachant qu'il y a des personnes qui ont des genres fluides. Aussi, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Sachant que la Cour constitutionnelle belge a justement affirmé en 2018 que effectivement les personnes pouvaient être fluides et que c'est discriminant de faire qu'il n'y ait qu'un passage entre M et F. Et donc, mais voilà. Mais c'est vrai que le X est un pansement pour les personnes qui ont vraiment envie de sortir de cette assignation continuelle d'un genre qui ne leur correspond pas, mais c'est pas une solution idéale.
Ouais, et puis comme tu disais, c'est un peu fourre-tout, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est le genre ou le sexe des personnes, et je pense que pas mal de gens ne savent pas même qu'il y a une différence. Mais au final, quand on regarde un peu, il y a des gens qui, par exemple, vont donner leur permis de conduire comme preuve d'identité, parce que là-dessus, il n'y a pas le genre. Donc pourquoi sur le permis de conduire, il n'y aurait pas ça, et sur la carte d'identité, il y aurait ça? Et enfin, je me suis déjà demandé sincèrement, ça servait à quoi? Enfin, peut-être pour des statistiques, mais sinon, pour rechercher des gens, je sais même pas si ça sert à quelque chose d'avoir son genre, quoi.
Bah ouais, clairement, je pense que la solution la plus peut-être inclusive, ça serait simplement d'enlever cette mention, parce que comme on l'a dit, à quoi ça sert? Mais moi, pour être un peu pessimiste, je pense que l'utilité, c'est de pouvoir catégoriser les gens et maintenir l'ordre à la fois hétérosexiste, enfin patriarcal, quoi, pouvoir dire il y a des gens au-dessus des autres, simplement. Et du coup, pour pouvoir faire une classification, il faut pouvoir trier les gens. Dire toi, t'es dans le groupe dominant et toi, tu l'es pas, quoi. Donc je pense que c'est d'ailleurs pour ça, même si les gens vont jamais le verbaliser comme ça, mais qu'il y a des oppositions, simplement. Parce que ça vient casser la hiérarchie naturelle, avec des gros guillemets, de la société. Et Sarah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais du coup, quel pronom tu utilises et est-ce que c'est important pour toi et pourquoi?
Moi, personnellement, donc, j'utilise le pronom « yel » de la même manière que je pourrais utiliser le « il » ou le « elle ». Parce que pour moi, en fait, je suis très indifférent par rapport à cela. Et au niveau des adjectifs, ça, c'est un peu plus particulier parce que j'ai du mal à qu'on m'adjectifie avec des adjectifs qui sont normés, stéréotypés au niveau du genre. Qu'on me dit « Ah, Sarah, t'es costaud, t'es fort », ça me met un peu dysphorique. Mais à l'inverse, me dire « Ah, t'es trop belle, t'es discrète », de la même manière aussi, donc, parce que ça ramène à des stéréotypes de genre et des rôles de genre que je n'apprécie pas. On en vient à la dysphorie, et la dysphorie, c'est un sentiment qu'il y a un décalage entre ce qu'on souhaiterait intimement en tant que non-binaire et ce qui se passe. Donc parfois, voir continuellement dans l'administration un M peut ou un F peut rendre dysphorique dans la manière parce que ça nous racine continuellement à un genre qui a été assigné à la naissance qui ne correspond pas. À l'inverse, entendre des personnes des formulaires où il y a autre, ça peut nous rendre euphorique. Donc on parle d'euphorie du genre et de dysphorie du genre.
Oui, voilà, donc la dysphorie. Ça peut être par rapport à des choses qui sont, que ce soit des mots, le langage, la manière dont on nous perçoit, mais ça peut être aussi physique. Donc pour beaucoup de personnes trans, quand on va soit porter d'autres types de tenues, soit avoir un maquillage ou une coupe de cheveux différente, ça peut donner de l'euphorie si ça correspond mieux à ce qu'on ressent comme genre à l'intérieur, on va dire. Et après, ça, comme disait Sarah, c'est vraiment souvent par rapport aux normes. Ça veut dire que souvent, si on nous raccroche à un truc hyper normé, ça va... C'est cringe, en fait. C'est malaisant, quoi. Enfin, moi, par exemple, je suis non-binaire aussi, et un truc qui me rend hyper dysphorique, par exemple, c'est de penser à la grossesse, parce que imaginer mon corps enceint, ça me rapporte vraiment trop au fait d'être une femme et d'être potentiellement mère et tout. Et donc, je pense que selon les personnes, ça va être différent. Choses qui vont stimuler en fait ça. Donc faut penser aussi, comme on disait avant, que les personnes sont plurielles et que c'est pas tout le monde qui va avoir de la dysphorie ou à l'inverse de l'euphorie pour la même chose. Donc ça veut dire que peut-être qu'une autre personne qui est aussi assignée femme à la naissance ne va pas forcément avoir de dysphorie. Donc les personnes non binaires peuvent être parents et ne pas en souffrir, alors que d'autres vont jamais supporter ça.
Et je voulais aussi rajouter que parfois la dysphorie ça se voit pas déjà. Et aussi, ça peut être aussi contre-intuitif, par exemple. Moi, par exemple, ma dysphorie à moi, c'est de me raser. J'aime pas le processus de me raser parce que ça me rappelle beaucoup trop un genre qui a été assigné à ma naissance. Mais paradoxalement, du coup, ça fait que je porte la barbe. Et que du coup, on m'identifie davantage comme un homme. Mais du coup, c'est vraiment parfois des processus qui sont complexes et qui arrivent aussi à vouloir changer son corps pour correspondre. Par exemple, envisager l'épilation au laser, envisager des modifications corporelles à certains niveaux. Là, parfois, certaines personnes prennent des hormones pour essayer de que leur corps corresponde à ce qu'ils ressentent vraiment, ce que ça devrait être. Au-delà des normes de société, parfois, c'est en lien avec les normes qui existent et qui leur rapportent à un genre qui est assigné à la naissance, mais parfois, c'est juste vraiment propre à soi et savoir comment notre corps, on voudrait qu'il corresponde.
Ouais, puis j'ai l'impression que pour une partie des personnes, il y a aussi un certain confort à pouvoir expérimenter avec son corps, en fait. Parce que des fois, on a été enfermé tellement longtemps dans un certain système que rien que pouvoir se voir autrement, ça fait vraiment du bien, quoi. Je pense que ça, même les personnes cis peuvent le comprendre d'ailleurs.
Et du coup, c'est une question qu'on a déjà un petit peu évoquée dans le premier épisode, mais comment vous êtes rendu compte que vous étiez non-binaire Comment vous savez que vous n'êtes pas finalement cisgenre?
Pour ma part, c'est un peu. C'est assez compliqué parce que, comme je vous ai expliqué, j'ai fait d'abord un coming in et un coming out homosexuel. Et donc quelque part, ça me suffisait d'avoir une certaine déconstruction de ce que c'est être un homme, me suffisait à une certaine mesure. Parce que j'avais déjà déconstruit l'idée d'être un homme hétérosexuel. Mais par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de stéréotypes aussi au sein des hommes homosexuels. Et donc, j'avais vraiment ce sentiment que je n'appartenais pas à ça, que je n'appartenais pas à ce que c'est être un homme. Ce que c'est d'être un homme occidental, ce que c'est d'être un homme homosexuel, ce que c'est d'être un homme oriental. Donc, il y avait vraiment ce côté de. Et plus je creusais au niveau de mon enfance, plus je me disais, mais en fait, j'ai jamais été à l'aise avec mon identité de genre. Et donc, c'est vraiment à un moment donné où, lorsque j'ai entendu parler du fait de la non-binarité, parce que je me suis aussi posé la question de se dire, mais en fait, est-ce que je ne serais pas une femme? Parce que quand on nous impose une binarité et qu'on ne sait même pas que la non-binarité existe, c'est parfois légitimement une question qui nous vient à l'esprit, se dire, mais en fait, si je ne suis pas un homme, bah, par défaut, je suis une femme alors. Et au final, je me suis rendu compte que bah, non, enfin, ce n'est pas non plus une définition qui me correspondait. Et c'est vraiment la découverte et pouvoir mettre un mot pour ça, et d'où l'importance d'avoir des étiquettes disponibles et pouvoir les choisir, et de voir qu'en fait on peut être non-binaire, on peut sortir de cette binarité. Ça a été vraiment un grand soulagement de me dire, mais en fait toutes ces questions ont été légitimes et m'ont permis de me construire, et en fait je peux exister, mon existence a du sens, mon identité existe. Et ça a été vraiment un des plus gros soulagements que j'ai eu.
C'est beau ce que tu dis. Bah pour moi c'est plus récent que pour toi, mais donc j'ai un peu le même parcours, dans le sens où j'ai d'abord compris que j'étais bisexuelle ou pansexuelle, enfin bref. En fait moi je fonctionne fort par je sais pas si je suis fascinée par quelqu'un ou si je veux être cette personne. Donc ça veut dire que au départ je voyais des meufs et j'étais en mode waouh, elles sont vraiment incroyables, et j'étais en mode est-ce que je suis jalouse d'elle, est-ce que je les trouve trop belles, ou est-ce que je suis genre carrément in love et tout. Et après ça a un peu fonctionné pareil avec l'idée de la transidentité. J'étais en mode ouais, c'est vraiment passionnant ce concept. J'ai commencé à en bouffer de la transidentité tous les jours, et j'étais en mode c'est vraiment génial, mais pareil que toi, genre j'étais là, mais clairement je suis pas un homme, donc je vais juste continuer à me renseigner, et puis voilà. Et puis, au bout d'un certain temps, quand j'ai compris ce que c'était la non-binarité, au début, j'ai l'impression que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est un truc vraiment spécial et que c'est des gens, tu sais, qui le savent depuis toujours. Enfin, tu sais, parce que c'est un truc, ça correspond à un ressenti, comme tu disais, intime, de ce qui nous correspond. Mais en fait, c'est vachement difficile de savoir ce qui nous correspond intimement, parce que on est tellement influencé par l'extérieur tout le temps que c'est difficile de vraiment se reconnecter à ça, et sans que ça passe non plus pour un truc chelou un peu ésotérique, quoi. Enfin, et du coup j'avais au début vraiment du mal à m'identifier à des personnes non binaires et à me dire que je pouvais l'être aussi, parce qu'on a l'impression que c'est un peu comme un truc gardé dans un un très petit groupe, en fait, alors qu'en fait énormément de gens peuvent être non binaires si ils font ce cheminement là et s'ils se rendent compte que ça leur correspond, et il y a pas tellement de gatekeeping, on va dire, donc d'exclusion de ce terme là de cette identité là en fait, du moment que une personne a l'impression qu'elle peut correspondre à ça, si elle se renseigne et que ça lui convient, bah, elle l'est, quoi. En fait, c'est vraiment quelque chose d'un peu philosophique, d'affirmation de soi. Et il y a énormément de gens qui se sentent pas légitimes à ça, parce qu'ils ont l'impression qu'il faudrait qu'ils aient un message dans le cerveau qui leur dise vraiment « je suis non-binaire » pour l'être. Alors qu'en fait, dès le moment où tu l'es et où tu es confortable avec ça, tant pis si les autres veulent pas te croire, ou tant pis si on t'accepte pas comme ça, mais voilà. Et je pense que ce qui est vraiment très important dans ça, c'est juste d'avoir du soutien et de trouver des personnes à qui en parler pour être sûr qu'on est sur la bonne voie et qu'on ne se trompe pas totalement d'idée. Mais je pense que quand on a creusé à ce point-là, on sait quand même ce qu'on veut, quoi.
Je pense que ce que tu dis me touche personnellement, et je pense que les non-binaires souffrent énormément de ce sentiment d'illégitimité, de se dire « mais en fait, mon identité n'est pas légitime ». Ce que je ressens, c'est dans ma tête. Ce que je fais, c'est pour attirer l'attention. Ce que je fais, c'est vraiment... d'ailleurs, lorsque j'ai fait mon coming out non-binaire, c'est ce qu'on m'a aussi renvoyé aussi d'une certaine manière. Non, mais Sarah, au final, on sait, t'es racisée, on sait, t'es engagée, on sait, t'es contre les stéréotypes de genre, etc. Est-ce que t'en as pas marre de faire chier ton monde? Et au final, bah, je me suis ainsi convaincu qu'en fait, bah, quelque part, c'était peut-être aussi pas défini. Et effectivement, quand on voit aussi les représentations de non-binaires, on se dit parfois on correspond pas à ça. Et en fait, il n'y a pas de définition de la non-binarité. C'est un terme parapluie qui regroupe énormément de réalités. Et du coup, s'il y a des personnes qui sont en questionnement, soyez fiers de qui vous êtes déjà et sentez-vous légitime par rapport à votre identité parce que c'est vraiment ce que vous ressentez au fond de vous qui importe le plus et pas ce que les autres veulent dire de ce que vous êtes.
Mais c'est super beau ce que vous dites et voilà, je vais faire ma petite minute niaise, mais ce que ça m'inspire nos discussions tous les trois, c'est qu'il y a un espèce de truc en commun de personnes qui sont queer, c'est que bah déjà le fait de se poser mille et une questions sur si on est légitime à revendiquer telle ou telle étiquette, comme tu disais. Moi c'est pareil dans mon expérience, j'en ai déjà parlé l'autre fois, mais je me pose encore maintenant des questions de est-ce que si je suis pas absolument dégoûtée par le sexe, est-ce que j'ai le droit de dire que je suis asexuelle? Si une fois tous les 36 du mois j'ai une relation sexuelle pour une autre raison, est-ce que je suis une traîtresse et j'ai plus le droit de me mettre l'étiquette que je veux? Et je crois que c'est vraiment important et beau ce que vous venez de dire en fait, si c'est comme ça que vous vous sentez, c'est à vous, cette étiquette, c'est votre outil à vous, saisissez-le et vous avez le droit de faire sens comme vous voulez de votre expérience. Et aussi, je trouve ça fondamental de rappeler cet exercice qu'on fait de simplement dire nos vécus, dire nos histoires. Et ça, c'est vraiment un geste, je pense, hyper fort d'empowerment, quoi. Parce que on peut se poser la question, mais à quoi ils servent tous ces mots? À quoi ça vous sert, en fait, de vous déclarer comme ci et comme ça? Mais ça, je crois que c'est vraiment une position de personne qui doit jamais se poser la question parce qu'elle rentre parfaitement bien dans les catégories qu'on attend des gens. C'est un privilège, en fait, de penser que ça sert à rien. De se saisir des étiquettes qu'on a envie de se saisir, de se raconter, de juste dire qui on est. Et donc voilà, je trouve que voilà, ça m'émeut un peu.
Quand tu dis de devoir à chaque fois définir aussi auprès des autres et on parlait de moi au quotidien, ce qui me frappe aussi, c'est au final, je me rends compte qu'il n'y a pas une soirée où je peux passer et à mettre en lien justement avec l'intersectionnalité, il n'y a pas une soirée où je peux pas passer en expliquant c'est quoi être homosexuel, c'est quoi être racisé, c'est quoi être non-binaire. Ah mais... Est-ce que tes parents savent que t'es non-binaire? Est-ce que tu peux être racisé non-binaire? Mais toutes les questions, et parfois j'ai envie de dire, mais vous voulez pas qu'on prenne tous un shot de vodka et qu'on passe à autre chose? Parce que moi, à la base, je suis venu pour faire une soirée, pas une soirée pédagogique, quoi. Enfin, et il y a vraiment cette question de, ou parfois aussi, qu'on s'attarde trop sur... C'est super important de les pronoms, c'est super important de demander et d'adjectifier correctement, mais par contre, c'est pas non plus quelque chose auquel il faut s'attarder non plus. Demander, ah mais du coup je dois t'appeler, je dois dire que t'es beau ou t'es belle, t'as qu'à dire que je suis magnifique et on passe à autre chose quoi. Mais donc parfois c'est aussi ce genre de choses qui sont très lourdes aussi. Donc essayez d'être aussi d'éviter que les personnes qui sont autour de vous fassent de la pédagogie pour vous et on n'est pas que des dictionnaires, on peut aussi parfois aussi ne pas trouver quel mot nous correspond,
Et être
etc.
contradictoire.
Et être contradictoire, être non binaire et homosexuel et affirmer ça et c'est pas non plus aux cis hétéros de dire non en fait non mais comment tu fais ça? Comment tu fais ci? Mais pourquoi tu essaies de trouver à chaque fois la petite bête qui va faire que mon identité n'existe pas? Parce qu'au final, moi je te le dis que mon identité existe vu que je suis là à te parler, donc c'est parfois ce genre de choses qui sont très lourdes.
Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, quand t'es non-binaire, tu dois avoir un master en philo et un doctorat en études de genre, quoi, pour pouvoir prouver ton existence. Genre, vraiment, les gens, tu leur dis j'existe et ils vont te dire non, t'existes pas, tu sais, enfin, je comprends pas. Non, mais sinon aussi, un truc que je voulais dire, c'est que beaucoup de gens qui sont pas, on va dire, trop engagés là-dedans ou qui s'y connaissent pas trop sont souvent de mauvaise foi parce que, comme on disait tantôt, il y a une confusion entre le fait de simplement refuser certaines normes et le fait d'avoir vraiment une identité non binaire. Souvent, les personnes qui ne connaissent pas très bien la transidentité, etc., vont être un peu de mauvaise foi et dire en mode, Ah bah si tu veux juste par exemple changer de tenue ou changer telle chose, vas-y, on s'en fout, tu vois. Un peu en mode pourquoi tu clames ton étiquette haut et fort alors que genre tu te crois subversif alors qu'en fait tu veux juste te couper les cheveux ou je sais pas quoi. Mais par contre en fait, dès que tu vas justement jouer un peu avec ces normes-là, tu vas te prendre dans la gueule un backlash énorme et même si la société est en train d'évoluer, bah on est quand même encore à fond dans les normes binaires partout donc c'est vraiment malhonnête et de mauvaise foi de dire à quelqu'un qu'on n'a rien de spécial et qu'on est juste comme tout le monde et qu'on devrait la fermer en fait, alors que souvent on veut justement remettre en question plein de choses.
Oui, et puis souvent on te dit non mais t'as pas besoin de te définir, on est tous pareils, on est tous des humains, vis ta vie, fais ce que tu veux, et puis une fois que tu le fais, voilà, enfin il y a qu'à voir, je sais pas moi, les hommes cisgenres ou non binaires, ça dépend, qui se maquillent ou qui voilà, qui portent des bijoux dits féminins, balade-toi avec eux ou avec elles dans la rue, tu vas voir que personne ne s'en fout en fait. Donc c'est ce que ouais c'est ça, c'est il y a une vraie hypocrisie là-dessus.
Parlant de d'hypocrisie aussi, moi ce qui me revient souvent c'est parfois enfin je suis entouré de personnes de femmes féministes et parfois genre on renvoie souvent maladroitement la question des privilèges en me disant ah mais si toi tu te permets de faire ça c'est parce que t'as le privilège masculin. Mais en fait oui, mais je pense que vu que j'ai dû déconstruire tout ça, je pense que je suis quand même assez au courant des privilèges que j'ai et parfois, oui, malheureusement, je les performe. J'en suis sincèrement désolé et je pense que ça va continuer à le faire. Mais je trouve ça un peu inopportun de parfois faire le combat des féministes sur le dos des personnes non binaires parce que au final, bah, attaquez-vous à vos frères, attaquez-vous à vos pères avant de s'attaquer aux personnes non binaires qui détiennent un chouïa de privilèges masculins qui leur sont gardés d'une éducation binaire, normée, qu'on leur a imposée. Et donc, oui, on a des privilèges, mais pour ma part, je les assume, j'en suis conscient, j'essaie de les déconstruire, mais parfois, des remarques peut-être aussi exprimées autrement, dire « Ah bah au final, moi j'ai moins de privilèges que toi », ou dire « Ah, tu as plus de privilèges que moi », sans préciser que c'est des privilèges masculins, parce que c'est sous-entendu et on n'a pas besoin, en tout cas personnellement, j'ai pas besoin qu'on me le réassigne à chaque fois. Je trouve ça un peu parfois maladroit, même si ça vient d'une réflexion très légitime qui est plus large du féminisme.
Oui, puis de la même façon, souvent dans les groupes, par exemple, moi, ça m'arrive d'avoir du sexisme intériorisé que je vais parfois à mon corps défendant exprimer. Donc, et ça me fait penser, parce que j'ai lu récemment un peu en retard le livre d'Alice Coffin, Le génie lesbien qu'il faut, tout le monde dise. Et il y a un passage qui m'a questionnée où elle dit oui, moi-même quand en l'occurrence des femmes font des trucs voilà, qui les rendent complices, on va dire, du patriarcat ou du capitalisme ou whatever, et que je suis pas d'accord avec elles, ben je vais pas publiquement le dire parce que il y a déjà toute une série de cis mecs qui, parce que c'est une femme, vont s'attaquer à elle. Donc, elle n'a pas besoin que des meufs féministes s'attaquent à elle. Et donc, ça me fait penser un peu à ça, tu vois. Genre, avant de passer mes nerfs sur les personnes non binaires, trans ou whatever, qui peuvent de temps en temps, à leur corps défendant, avoir des comportements oppressifs, ben déjà, d'abord, s'attaquer aux gens qui représentent vraiment l'oppression et qui la performent avec. Pas à leur corps défendant en l'occurrence. Donc, donc voilà.
Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question de la non-binarité, même s'il y a énormément de choses qui sont encore à discuter. Et donc, je vous dis à plus tard avec l'épisode sur la bisexualité avec Amélie.
Bye bye.
Au revoir. What do we want?